un terme qui est un gros mot, mais qui est devenu assez partagé maintenant, qui est celui d'anthropocène, et c'est dans ce cadre que doit se comprendre la pensée de l'agriculture actuellement. L'anthropocène, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ère dans laquelle, l'ère géologique dans laquelle nous serions entrés depuis, il y a débat, mais depuis 50 ans pour les uns, 70 pour les autres, ou depuis le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire depuis l'utilisation des énergies fossiles à partir de 1750. Ère où l'homme finalement modifie tellement les milieux, en particulier du fait de la mobilisation des énergies fossiles, que on peut considérer que l'homme est devenu une force géologique majeure qui est en train de transformer durablement la Terre. Alors, est-ce qu'on est dans l'anthropocène ou pas? Il continue à y avoir débat au sein des géologues. Finalement, le débat est peu intéressant au sein des géologues. Ce qui nous intéresse, c'est que le mot a fonctionné, a eu un certain succès, et actuellement, les débats sur l'agricole s'appréhendent l'agriculture dans l'anthropocène. Alors, c'est l'arrière-plan. Si vous voulez, on pourra revenir sur l'anthropocène plus tard. Il y a évidemment énormément de débats autour de ce terme. Un très bon livre paru l'an dernier, non, paru il y a 2 ans au Seuil, dans la collection Anthropocène. Le Seuil, l'éditeur, a fondé une collection spécifiquement autour de cette question d'anthropocène, avec tout un tas de débats passionnants autour de ça. Ce qui va m'intéresser en matière agricole, c'est que les changements qui ont amené à l'anthropocène sont au moins de 3 ordres. On les appelle les changements globaux, et on considère qu'il y a 3 grands changements globaux au moins qui sont actuellement à l'œuvre. Le premier, c'est le changement climatique, c'est le plus connu, et c'est celui qui est en train de climatiser tous les autres changements, de dominer tous les débats, et de fait de dominer toutes les réalités sans doute. Le deuxième changement global, c'est la crise de la biodiversité. Vous savez que l'on estime qu'une expertise des Nations Unies estime qu'on connaît actuellement une extinction d'espèces à une vitesse rarement égalée dans les âges géologiques, et que si les dynamiques qui conduisent à la disparition de ces espèces, c'est-à-dire l'urbanisation, l'industrialisation, et enfin le changement climatique et l'agriculturisation des milieux, si ces dynamiques continuent, on observerait sans doute une chute d'espèces comparable aux chutes qui ont eu lieu au cours des 5 précédentes extinctions de vie à la surface de la Terre, la précédente extinction étant celle qui a amené la disparition de nos amis les dinosaures. Et le troisième changement global est considéré par l'augmentation de la population, plus 50% entre 2000 et 2100, et avec non seulement une augmentation de la population, mais une augmentation du niveau de vie. Vous savez que le problème n'est pas tellement le nombre d'habitants qu'il y a sur Terre, mais le niveau de consommation de ces habitants. Or, on peut souhaiter que tout de même le niveau de vie d'une grande partie de l'humanité s'améliore. C'est l'objectif, par exemple, des objectifs du millénaire qui ont été établis au tournant du millénaire par les Nations Unies. Mais la question est que ces changements provoquent des impacts sur le milieu extrêmement forts. Alors, les changements globaux en contexte d'anthropocène impliquent, pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'agriculture, des changements profonds dans la manière de mobiliser les ressources, c'est-à-dire dans la manière de faire de l'agriculture, dans la manière de lier l'agriculture avec les écosystèmes et avec les climats. Ce qui veut dire, quand on parle de mobilisation de ressources, que c'est jamais neutre, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui mobilisent les ressources, il y a des techniques qui servent à les mobiliser, ça impacte des modes de vie et ça impacte des modes de gouvernance. Autrement dit, les changements globaux amènent à des innovations profondes que l'on n'hésite pas à qualifier de révolution agricole. Alors, révolution agricole ou pas, en tout cas, innovation profonde, jusqu'à quel point? Le débat, donc, est... il faudrait que l'on ait, pour tenir ces enjeux globaux dans le contexte de l'anthropocène, une véritable révolution agricole qui se mette en place. Mais évidemment, tout le débat, c'est quelle révolution, qui la porte, qui la soutient, qui y gagne et qui y perd. Bon, je l'ai dit. Mais on va d'abord s'interroger sur qu'est-ce que les termes. Une révolution agricole, je vous l'ai dit, mais c'est important d'insister dessus. C'est pas neutre, il y a du changement de technique par changement de système de production, va nous dire Mazoyer, Roudard, c'est-à-dire la chaire d'agriculture comparée de l'INAPG, ces gens qui travaillent sur les modes de production en comparant à l'échelle du globe. Donc il y a un changement technique, il y a un changement organisationnel, c'est-à-dire autour, on change les systèmes d'encadrement de l'agriculture, qui sont très importants, et il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire de manière de concevoir la production agricole et ses rapports aux vivants et ses rapports aux êtres humains qui produisent et qui consomment. Vous vous rappelez, quand je vous ai parlé de mon itinéraire, ben, au début j'ai commencé par changement technique, j'ai compris que c'est pas là que ça jouait, je suis allé dans le changement organisationnel, c'est-à-dire dans les politiques qui orientent les techniques, j'ai compris que c'est pas là que ça se passait, je suis allé voir les paradigmes, et finalement je me dis que c'est pas là que ça se passe, et je vais sans doute revenir aux techniques, parce que c'est sans doute dans un mélange entre ces trois ordres de scalaires que se définissent les révolutions agricoles. Alors une révolution agricole, donc, c'est une nouveauté technique, mais si elle ne conduit pas à une mise en système, et à une mise en système qui soit à la fois politique et organisationnelle, et même paradigmatique, qui gère le rapport au vivant, ça n'est pas une révolution, c'est une simple innovation, ou c'est un simple changement. Et toutes les innovations ou toutes les révolutions ne sont pas socialement positives. C'est pas parce qu'on parle de révolution agricole que c'est positif. La deuxième révolution agricole, la révolution verte, a eu, je pense que vous le savez bien ici, des impacts que l'on peut considérer d'un grand nombre de points de vue comme des impacts socialement négatifs, etc., etc. Tout ça doit être nuancé, mais en tout cas, sachez que je ne défends aucune chapelle. Alors on va essayer d'incarner ça. Donc, puisqu'on a posé l'enjeu est considérable, on va essayer d'incarner ça. Comment ça se débat aux Nations Unies? Alors, pour chacun des changements globaux, il y a une expertise globale qui est mise en place. L'expertise la plus connue est l'expertise qui est menée par le GIEC pour le changement climatique. Mais il y a d'autres expertises. Il y en a une pour la biodiversité qui a été portée par le Millennium Ecosystem Assessment. Alors, le principe de cette expertise, c'est que quand les Nations Unies ont érigé les enjeux pour le millénaire de niveau d'éducation, niveau de nutrition, etc., etc., pour les populations en augmentation de la surface de la Terre, les écologues ont levé la main, ont dit « Ouh là 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 là, c'est très bien vos idées là, mais si on les met en œuvre, les sols ils vont pas tenir. En tout cas, pas avec les systèmes de production actuels. » D'où d'ailleurs le colloque sur les sols dont tu as parlé au palais du Luxembourg. Il y a eu une grosse alerte en disant « Mais attendez, les systèmes actuels, ils ne sont pas capables. Ils peuvent tenir 10 milliards d'habitants, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que si c'est 10 milliards d'habitants qui consomment comme consomment les 300 millions les plus riches, ça ne va pas le faire. » Donc, ils ont dit « Il faut faire une expertise écologique. » Et donc, entre Millennium Assessment, ils ont rajouté « écologique » et ils se sont réunis en groupe d'experts, de la même manière que le GIEC, pour le dire assez vite. Et ils ont fait une expertise sur les capacités des écosystèmes. Et puis il y a eu une troisième expertise qui s'est réunie sur les capacités des systèmes de production agricole qui est l'IAASTD, IAASTD, qui a fait une expertise sur les systèmes agricoles. La deuxième, l'expertise du Millennium Ecosystem Assessment, est intéressante parce qu'elle a dit, pour le futur, en fait, on a le choix entre quatre scénarios, et ces quatre scénarios sont chacun... important et chacun implique plus ou moins des bouleversements. Ils ont organisé ces quatre scénarios en deux axes, c'est des scientifiques donc tout est bien organisé, en abscisse et en ordonnée. En ordonnée, vous allez avoir, les géographes vont aimer, local, global, c'est-à-dire on pense les changements à une échelle locale, c'est-à-dire chaque territoire organise son changement dans son coin et puis collabore ou collabore pas autour de ces changements, et c'est la somme de ces changements qui fait ou pas changement global, think global, acte local, enfin ce genre de choses. Et puis, à l'opposé, il y a ceux qui disent non, il faut envisager à l'échelle globale, à l'échelle du monde, en gros, ça consiste à dire organisons-nous entre nous pour coopérer. Et spécialisons les territoires dans ce dans quoi ils sont meilleurs. Ceux qui sont bons pour produire le grain produisent du grain, et puis les excès de grain qu'ils produisent, ils les donnent à ceux qui sont bons pour protéger des milieux, etc. Ça, c'est le premier axe, l'axe des ordonnées, et l'axe des abscisses, encore plus simple à comprendre, surtout à quelques semaines de la COP. Il y a l'axe de ceux qui décident de ne rien faire, et de laisser venir les changements globaux, et de les gérer, un axe réactif. Et il y a ceux qui décident de prendre les devants, d'être proactifs, et d'essayer de mettre en place des changements pour accompagner les changements globaux qui, de toute façon, arriveront. Alors, on est dans de la politique de scénarisation, donc toujours, évidemment, il y a une mise en scène, et il y a toujours le scénario que tout le monde veut éviter, qui est le scénario repoussoir, qui est le scénario moins, si vous voulez, si vous prenez, vous rappelez vos cours de terminale, vous savez où sont les plus, vous savez où sont les moins, donc vous prenez le scénario en bas à gauche, c'est un scénario moins. C'est le scénario ordre par la force, qui consiste à dire, dans ce scénario, certains espaces se protègent, ont des modes de vie positifs en produisant des grandes quantités importantes d'aliments, en produisant tellement d'aliments qu'ils peuvent se payer à boire, du vin, donc en produisant aussi du vin avec les sols, consacrer des sols au vin dans une terre à 10 milliards d'habitants, ça sera un enjeu. Et puis, qui vont vivre dans un espace urbanisé et puis qui vont externaliser tous les effets négatifs du développement dans d'autres pays qui, eux, en plus d'être pauvres comme ils le sont aujourd'hui, vivront dans des milieux encore plus dégradés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et pour éviter que les pauvres viennent chez les riches, enfin, les pauvres vivant dans des milieux dégradés viennent chez les riches vivant dans des milieux préservés, on construira des murs pour éviter l'immigration. Alors, évidemment, toute référence à des murs existants et à des situations aujourd'hui existantes est purement fortuite. Et le scénario repoussoir paraît en fait un scénario tendanciel. Ce qui se passe si on continue à ne rien faire. Vous avez le scénario au-dessus, un moins plus, qui est le scénario, disons, COP, Nations Unies, etc., pas de décision importante sont prises à la sortie des COP. C'est un scénario, bon, mais au moins on discute. Au moins on est là, on dialogue, et on essaye d'assurer le partage des effets négatifs des modes de développement, c'est-à-dire on crée des quotas pour accueillir les migrants, en fait, tous ces débats auxquels on commence à être habitué, c'est ce genre de débat. Toi, par exemple, tu produis beaucoup de grains, mais en faisant ça, tu changes le milieu à tel endroit, et bien tu vas transférer une partie de tes grains, enfin de tes aliments, à ceux qui sont dans les milieux dégradés, etc. On essaye d'éviter les murs et de coopérer. Scénario orchestration globale, c'est le travail des Nations Unies depuis 60 ans, hein. De 70 ans maintenant, de faire ça. Donc ce sont des scénarios qui ne sont pas très intéressants, sont plus intéressants et vont plus nous intéresser aujourd'hui, les deux scénarios proactifs. Mais il ne suffit pas de dire qu'il faut faire une révolution pour aller dans une direction précise. Évidemment, la direction change selon les scénarios que l'on privilégie. Et au moins, on a deux scénarios radicalement opposés et qui permettent d'organiser le dialogue entre, d'une part, on va faire un moins plus encore, on va partir à celui du bas, mosaïque adaptative, des territoires, c'est vraiment le think global act local, des territoires qui organisent leur indépendance à l'échelle du territoire, qui produisent leurs aliments en fonction des capacités du territoire, qui produisent leurs énergies en fonction de la capacité du territoire. En recourant aux technologies, il n'y a pas de problème, vous voyez que là il y a de l'éolienne et du solaire. Et chaque territoire organise son autosuffisance, et là où il n'est plus autosuffisant, il organise les échanges avec les autres. Mais c'est d'abord une pensée territoriale. Et à l'opposé, le plus, c'est quand même les Nations Unies qui font et derrière c'est la Banque mondiale qui finance, scénario techno-garden, les problèmes que les technologies ont posés, les technologies les résoudront, et on met en place un contrôle par la technologie des processus écosystémiques, avec, vous voyez, cette femme, c'est politiquement correct, qui derrière son écran gère les écosystèmes, organisés de manière intensive, vous voyez les enfilades d'éoliennes, les enfilades de panneaux solaires, et les enfilades d'agriculture sous serre, pour parler du contrôle des écosystèmes. Donc ça, c'est un scénario type désertec, mais aussi en agriculture type organisme génétiquement modifié. Alors que le scénario d'en dessous est plutôt en agriculture un scénario type agroécologie, ou agriculture biologique, si vous voulez, en tout cas agriculture biologique non conventionnalisée. Alors voilà, les scénarios. En termes d'organisation de l'espace, ces quatre scénarios sont fascinants, en particulier les deux de droite, parce que ils n'impliquent pas du tout le même rapport aux écosystèmes. Dans l'un, je commence par celui du haut, cette fois-ci, allez. Dans l'un, ça veut dire on spécialise les territoires. Les territoires productifs, on y met de la production. Bassin parisien, bassin aquitain, pampa argentine, plaine d'Ukraine, savane africaine, cerrado brésilien, etc., etc. Là, on produit de manière intensive grâce aux meilleures technologies dont on dispose, en particulier les semences transgéniques. Et puis, on y va et sans hésitation. Par contre, effectivement, on va détruire les milieux. Du coup, les systèmes à grande capacité de production de biodiversité, comme les forêts tropicales, comme certains espaces que l'on va avoir par zonage, on préserve et on crée en gros des parcs nationaux pour préserver dans ces espaces. C'est un système qui a la rationalité scientifique pour lui et on va voir qu'il y a une certaine efficacité. À l'opposé, le système land, ça c'est un système land sparing. On consacre des usages à des espaces. Et d'un autre côté, le système land sharing, on partage les espaces, les usages au sein d'un espace en mettant, ici vous connaissez bien, de l'agriculture, de la haie, enfin des haies, pour qu'il y ait à la fois des arbres et puis à la fois des systèmes agricoles, etc. etc. C'est les systèmes agroécologie, multifonctionnalité de l'agriculture, tous ces débats. Ces débats au moins ont l'avantage d'exister et sont fascinants. Et c'est ces systèmes qu'on va voir puisque j'ai eu la chance d'aller me promener dans la Pampa argentine. Et on va étudier à partir de la Pampa argentine ce qui se passe, qu'est-ce que veut dire ce système de technogarden dans un endroit où il est aujourd'hui mis en œuvre de façon intensive. Et ce que je vais dire sur la Pampa argentine, pour autant que je sache, est valable pour les llanos colombiens, pour les cerrados brésiliens, et c'est le futur des savanes africaines aujourd'hui. C'est un des gros enjeux aujourd'hui de ces terrains-là, qui sont en cours d'intensification très forte en agriculture. On va parler de ça, et je vais vous dire concrètement ce qui se passe dans ces territoires. Si j'ai le temps, mais vu le temps que je prends ici, je pense que je passerai, on ira voir les parcs nationaux africains pour voir qu'est-ce qui se passe en matière de parc national, comment on... Le pendant, on ne peut pas imaginer les systèmes transgéniques sans imaginer les systèmes parcs nationaux, les deux sont pensés ensemble, et Monsanto et Greenpeace, par exemple, font alliance autour de causes communes, je te laisse les espaces, mais tu me laisses cela, en gros. Il faudrait aller les voir, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Et puis, on va aller voir ce qui se passe dans les territoires agroécologiques, c'est-à-dire des zones où on a essayé de faire du sharing, de l'agroécologie, comment ça se passe et quelles sont les possibilités. Ce que je veux faire avec ça, c'est mettre en lien ces systèmes de pensée de l'agriculture qui sont efficaces, qui fonctionnent bien, qui sont dans la littérature, etc., etc., les mettre avec des réalités que j'ai pu parcourir en bon géographe et pour mettre ces choses en dialogue. Alors, la Pampa argentine. Révolution agricole, pas révolution agricole. J'ai fait un livre là-dessus, enfin, j'ai coordonné un livre là-dessus, qui a conclu qu'on pouvait penser qu'il y avait révolution agricole. Alors, ce schéma est un schéma qui a eu beaucoup de succès, que j'ai composé à partir de diverses sources, mais qui sont absolument publiques, les sources, hein, qui sont faciles à avoir, et qui montre l'évolution en très plein des quantités plantées de grains, enfin, de grandes cultures, et en très pointillé les surfaces récoltées. Alors les échelles, je les fais correspondre pour la période 1900-1970, je mets les traits ensemble, c'est du choix d'échelle, hein, je peux faire comme je veux, et puis ce qui est important, c'est les décalages entre les deux courbes. Et vous voyez qu'on a dans les années 70, un premier décalage qui s'observe, et qui correspond, vous voyez, on récolte plus qu'on ne sème, c'est la première révolution, la deuxième révolution agricole, pardon, la révolution verte qui arrive dans la Pampa argentine. Si on a une augmentation des quantités récoltées par rapport aux surfaces plantées, bien plus important que l'augmentation des surfaces plantées, c'est qu'on a une augmentation des rendements. Très bien, on la connaît, c'est la révolution verte. Plus étonnant est le changement qui a lieu en 95, que vous voyez qui est extrêmement radical d'une année sur l'autre. En fait, on a dans la Pampa argentine un véritable laboratoire de diffusion des semences transgéniques qui se diffuse de manière massive à partir du milieu des années 90, et qui produisent l'augmentation des rendements qu'on observe, à la fois une augmentation des surfaces plantées, on appelle ça l'agriculturisation de la Pampa. Savoir que la première fois que je suis allé dans la Pampa argentine, en 2005, j'ai fait 4 heures de bus, je suis passé direct de l'aéroport à la petite localité que j'étudiais, et puis dans le bus, très bien, je vois des paysages agricoles, et puis à un moment, je vois une pub pour Milka, avec une vache, en 3D, vous savez, et tout d'un coup, je me dis, mais oui, il y a des vaches normalement dans la Pampa. C'est la première vache que je voyais en 3 heures de bus. Pas une seule vache dans la Pampa, qui est quand même le lieu de l'élevage. Et en fait, on a eu ce phénomène de remplacement des élevages par les vaches, ce qui est en train de se passer actuellement, enfin ce qui s'est passé dans le Cerrados, dans les Llanos, et ce qui est prévu pour les savanes africaines à courte échéance. Voilà, donc chaque étape en fait correspond à une grande étape de l'agriculture, association de grandes cultures élevage, donc première révolution agricole jusque dans les années 70, deuxième révolution agricole avec la révolution verte, là, et le système actuel où on s'est demandé si on observait une troisième révolution agricole. Alors, notez les changements, enfin la variabilité des rendements qui est extrêmement importante. Vous voyez qu'on a toujours eu la variabilité de rendement, mais cette fois-ci, ce qu'elle a, c'est qu'elle est plus importante qu'avant, peut-être pas, c'est difficile à dire. En tout cas, on ne revient jamais au niveau précédent, ça c'est clair, mais en pourcentage, elle est peut-être aussi importante qu'avant, mais elle est, comme on est sur les quantités élevées, on peut avoir des quantités extrêmement importantes qui varient d'une année sur l'autre, et c'est lié aussi que de sécheresse. D'où le fait que travailler sur les changements climatiques, la variabilité climatique et des précipitations dans la Pampa argentine, c'est un moyen assez facile d'obtenir des crédits pour faire de la recherche. Il y a de gros enjeux là-dessus. Alors, quel est le système qui est derrière? C'est un système tout bête, hein, plantes génétiquement modifiées. Alors, vous savez, les plantes génétiquement modifiées, on en parle beaucoup. En fait, c'est des systèmes extrêmement simples, en tout cas ceux qui sont implantés dans la Pampa argentine. C'est l'un, un système pour, en particulier, le maïs et le soja. C'est un système de résistance à un herbicide. La semence génétiquement modifiée est développée par un producteur d'herbicides, un chimiste, la plupart du temps Monsanto, mais aussi BASF ou Syngenta, qui crée une variété de soja ou de maïs qui résiste à son herbicide et qu'à son herbicide. Du coup, vous savez, pour un agriculteur, c'est toujours un peu compliqué de produire. Il a toujours la limite de quand il plante sa graine, il veut récolter uniquement les fruits de sa graine. Il ne veut pas récolter les fruits des graines d'à côté, de ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Donc, quand il plante, un agriculteur, évidemment, tout l'enjeu, c'est que la graine qu'il a plantée, la plante devienne plus grande que les autres graines, le plus rapidement possible, pour qu'ensuite, elle puisse faire de l'ombre, faire de la compétition, pour que les autres viennent pas se développer. Le système des cultures techniques de base en agriculture, c'est celle-là. Alors, il y a différentes techniques pour cela. Depuis, enlever mécaniquement, c'est-à-dire manuellement, les mauvaises herbes, les adventices, jusqu'à les enlever mécaniquement, et puis ensuite par des systèmes d'herbicides. Mais les herbicides, a priori, ils sont idiots. Ils tuent les plantes, ils tuent le vivant. Donc, le principe de la semence génétiquement modifiée, c'est que votre herbicide, il va tuer tout le monde, sauf la plante qui vous intéresse. Révolutionnaire. Pour un agriculteur, c'est révolutionnaire. Ça permet tout un tas de changements. En fait, ça ouvre la porte à tout un tas de changements. En particulier, ça ouvre la porte à des manières différentes de faire l'agriculture, puisque un des gros avantages du labour, c'est que vous prenez votre motte, vous la retournez, donc vous mettez aux herbes, aux mauvaises herbes, la tête en bas, et le temps qu'elles comprennent qu'elles ont la tête en bas et qu'il faut qu'elles poussent de l'autre côté, vous avez planté votre graine a eu le temps de monter, et donc de faire la concurrence aux autres, et il y a quelques qui se développent. En système de transgénique, vous n'êtes pas obligé de labourer, vous pouvez laisser votre système tel que, et puis pour lutter contre les mauvaises herbes, il suffit d'appliquer votre herbicide. Le problème, c'est que l'avantage de ça, de ne pas labourer, c'est que votre sol, vous gardez une vie biologique, et l'aération du sol se fait grâce à la vie biologique, et dans les systèmes pampéens qui sont des systèmes soumis au vent, enfin dans les systèmes de grande plaine en général, qui sont soumis à des phénomènes de vent, d'érosion éolienne importante, et à des périodes de pluie qui tombent au moment des labours, en fait vous avez une déperdition des sols beaucoup moins importante, puisque vos sols sont bien structurés, vous ne les avez pas labourés, du coup ça vous évite de perdre. Donc, les plantes génétiquement modifiées permettent la diffusion du semi-direct, et le semi-direct c'est fantastique pour les agriculteurs, parce que avec leur tracteur ils ne sont pas obligés de labourer sur des profondeurs de 20-30 cm, ils peuvent juste semer la graine. Est-ce que j'ai le zoom? Ouais, vous voyez ici en fait ils font dans notre machine, hop, elle est là, ils creusent un sillon avec un premier passage, tout de suite après ils vont mettre la graine dans leur sillon par un système pneumatique. Et ensuite, ils referment le sillon. Et en un seul passage, ils font ce qu'un agriculteur traditionnel fait en 3 ou 4 passages, avec le passage du labour, du herçage, du semis et du et derrière. Ils font tout ça en un seul passage. Donc, j'insiste là-dessus, ne vous trompez pas, si les agriculteurs de la Terre de Feu, la Terre de Feu de la Patagonie au Canada, ont pris les semences génétiquement modifiées, et les agriculteurs en grande culture sur toute cette surface-là, à part les zones intertropicales, s'ils ont pris les semences génétiquement modifiées, c'est que ça leur rend des services extrêmement importants, et c'est bel et bien le cas. Ça change fondamentalement les techniques agricoles. D'autant que ça permet aussi, enfin, ça a été accompagné par une nouvelle étape de la mondialisation, avec une redéfinition du rôle des États dans l'intervention en agriculture et l'émergence du marché chinois avec un nouveau marché qui se développe. Le gros avantage, c'est qu'on produit en OGM souvent c'est du soja ou du maïs. Le soja et le maïs, ce n'est pas des plantes que l'on mange. En fait, c'est qui va servir à nourrir des animaux qui vont être nourris en stabulation, qui vont nourrir ces demandes nouvelles en alimentation carnée des pays du Sud, en particulier la Chine, le Brésil, enfin bon, et qui vont accompagner, qui vont permettre de dégager des terres pour faire de l'agriculture ailleurs, des terres qui étaient auparavant consacrées à l'élevage, puisqu'on peut stabiliser l'élevage dans ces zones-là. Bon, voilà. Voilà pour la logique du système. Alors, qu'est-ce qu'il donne, ce système ? D'un point de vue économique, la rentabilité est assurée par la quantité. C'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans les calculs économiques, mais c'est un système qui est assez, enfin, qui est rentable, mais pas autant que ça, parce qu'il y a tout un système de rente foncière qui fait que la terre étant devenue capacité de produire plus seulement du bétail, mais aussi de l'agriculture, la possession de la terre devient extrêmement importante. Donc il y a une rente foncière qui se met en place avec une grosse compétition pour l'accès à la terre. Vous en avez parlé autour des systèmes de land grabbing, etc. Du coup, il y a une grosse richesse qui se crée autour de l'accès à la terre, qui fait que les personnes, enfin, on est rentable si on est capable d'exploiter de grandes surfaces, parce que les rendements, enfin, les gains par hectare sont assez peu importants. Par contre, avec le système de semi-direct, puisqu'on n'est plus obligé de labourer nos sols sur 20-30 cm, ce que l'on peut faire, c'est que l'on peut avoir des machines qui prennent des surfaces, qui à chaque passage font des surfaces bien plus importantes, puisque la puissance du tracteur n'a pas obligé de rentrer dans 30 cm de terre, elle peut faire de plus grands passages. Du coup, on a classiquement des 12 mètres de ligne. Un tracteur qui fait 12 mètres de ligne, c'est basique. Et j'ai vu des machines qui font 16 mètres de ligne. Un passage de tracteur fait 16 mètres. Bon, en semi-direct, c'est colossal. Mais ces machines coûtent plus cher, évidemment. Mais alors, calculez vite, si ça coûte plus cher, mais que ça permet de travailler plus de terre, ben, soit vous gardez les mêmes quantités de terre qu'avant, mais vous perdez de l'argent puisque vous avez mis plus de capital, soit vous allez prendre la terre du voisin, évidemment. D'où la compétition pour l'accès à la terre dont je vous ai parlé juste avant. L'enjeu, c'est d'avoir plus de terre. Donc, création d'une rente foncière et d'une petite élite bourgeoise, enfin, terrienne. Troisième chose, organisationnelle, transformation des modes de production. Je suis désolé, je vais prendre un tout petit peu de temps pour parler de ça. Quand je suis arrivé dans la pampa argentine, j'ai non seulement eu le choc de la vache, mais en plus, quand j'ai voulu faire mes entretiens en bon géographe, et que je suis allé voir mes exploitants agricoles, eh ben, je ne savais pas qui c'était l'exploitant agricole. Parce que le propriétaire de la terre, il loue, je vous ai dit. Et il loue bien 100 hectares de terre, 25 000 dollars par an de rente, dans les zones les plus riches de l'Argentine. 25 000 dollars par an de rente en Argentine pour juste louer sa terre. Et 100 hectares, c'est pas un grand. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la quantité de base. C'est à peu près mon salaire ici, mais en France. Quoi, en fait. Ça va quand même, on peut vivre avec ça. Donc du coup, le propriétaire, il ne travaille pas. Le gars qui travaille, il ne fait que s'occuper d'une dizaine de parcelles, de 700-800 hectares, mais il ne fait pas les travaux agricoles. En fait, il va contractualiser pour les travaux agricoles, et il va contractualiser un mec qui est spécialisé dans le labour, parce qu'il faut des machines spécialisées, il faut être bon, un gars qui est spécialisé dans le traitement, alors là, le traitement, c'est pas dur, il suffit d'appliquer du glyphosate, et un gars qui est spécialisé dans la récolte. Donc, en fait, on a trois personnes qui travaillent la même parcelle, qui est gérée par une quatrième personne, qui est possédée par une cinquième personne. Mais en fait, le gars qui s'occupe d'organiser tout ça, lui, il ne va pas s'embêter à aller voir les détails des parcelles agricoles et de ce qu'il faut y faire. Il embauche un agronome qui le conseille. Donc, le gars qui prend les décisions sur l'exploitation, c'est un sixième, c'est un agronome. Un agronome. C'est évidemment pas le même qui va commercialiser, parce que ça se commercialise à Chicago. Il faut être super spécialiste des fonctionnements de la bourse. Il faut avoir des salles de marché, etc. Donc, on a un septième qui assure la commercialisation. Et avec un peu de chance, vous pouvez trouver un huitième pour faire la tâche X ou Y qui va vous intéresser, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là-dedans, le salarié agricole, l'ancien, il n'est plus là, parce que pour conduire des tracteurs qui font du transgénique, il faut être très bon, C'est génial ces tracteurs avec un super truc informatique, mais il faut avoir un BTS agricole pour faire ça. Du coup, l'ancien péon, il n'y arrive pas. Il n'y a plus de vache parce que la vache, elle est en stabulation. Donc le vaqueiro, il disparaît, c'est devenu. Hein, on arrive à bien industrialiser, etc., etc. Changements colossaux à ce niveau-là. Et changement spatial, ce système de technique, ce système de agricole est beaucoup moins agressif pour les sols, je vous ai dit, que le système de labour. Du coup, on arrive à aller chercher des nouveaux sols qui auparavant étaient utilisés en élevage, en particulier ces radeaux brésiliens, llanos colombiens, et maintenant, donc des grandes plaines en fait, enfin des plaines des savanes, hein, et maintenant donc savanes africaines qui peuvent être colonisées puisque bonne rétention d'eau du fait qu'on ne laboure pas, enfin ça va assez bien. Donc là, si pour revenir à mon débat sur révolution agricole, là on a clairement changement de système de production et colossal à une échelle extrêmement importante, je vous ai dit, de la Patagonie au Canada. Par contre, en termes politiques, ça change aussi considérablement parce que tout a changé. Il y a une nouvelle classe qui émerge, les propriétaires terriens, les syndicats. De toute façon, il n'y a plus de travail. Donc le rôle des syndicats change. Et dans les pays latino-américains, où je sais que vous êtes tous très favorables à la gauche latino-américaine, etc., mais c'est des gauches clientélistes, quand même, on peut le dire, assez corrompues, et donc qui passent des pactes avec les syndicats qui ne sont pas toujours... enfin bon, voilà, ça ne plaît pas quand je le dis, mais moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est pas très propre ce qui se passe quand même. Donc du coup, relation syndicat-État complètement transformée et pas au bénéfice, je vous assure, des anciennes populations rurales, et nouveau pacte rural qui émerge autour de ces paradigmes exportateurs. Le pacte, voilà, et puis territorialement parlant, en grosse réorganisation des territoires, je ne rentre pas dessus, mais on n'est pas du tout sur les mêmes systèmes d'organisation de l'espace pour le géographe. Donc on a un changement de système agraire aussi, les rapports de pouvoir ont profondément été bouleversés par ça, en 15 ans. Cela fait-il révolution agricole ? Vous a rappelé tout à l'heure, je vous ai dit que pour révolution agricole, il faut changement de système de production et changement de système agraire. Est-ce qu'on a révolution agricole ? Ben, il faut pour la révolution agricole autre chose, un changement de paradigme ? Non. Là, clairement, on n'a pas de changement de paradigme dans la mesure où la manière de concevoir l'agriculture entre la révolution verte et aujourd'hui, entre la semence hybride et l'OGM, n'est pas considérablement modifiée. Quand on parle avec les développeurs d'OGM, ils sont choqués de ce qu'on dit sur les OGM, parce qu'ils disent « mais c'est rien de plus, enfin, c'est une étape de plus que ce qu'on faisait avant, mais franchement, ce qu'on fait n'est pas aussi terrible qu'on le dit, il n'y a pas grand-chose qui a changé. » Et je suis prêt à les croire. Le changement n'est pas aussi important, en tout cas avec les OGM de cette génération, que ça. C'est en pure continuité du système révolution verte. Disant ça, je ne dis pas que c'est bien. Je dis juste, et d'ailleurs, révolution verte, je dis juste que le changement en soi, en termes de manière de concevoir l'innovation en agriculture, de concevoir la semence et de concevoir le rapport entre la semence et le milieu, n'est pas très différent. On développe la semence en laboratoire et on adapte le milieu à la semence. C'est ça, concrètement, on industrialise l'agriculture. Voilà, c'est un système fragile avec des impacts négatifs sur la santé, évidemment. C'est-à-dire que, évidemment, en période de traitement des grandes cultures, je ne vous conseille pas, si vous êtes enceinte, de rester dans la zone. Et évidemment, il y a toujours machin bidule qui travaille le glyphosate, pour ne citer que le glyphosate, depuis une vingtaine d'années, et il n'est toujours pas mort d'un cancer, c'est clair, mais son voisin, enfin, tout ça c'est des histoires de prévalence, il semble bien qu'en termes de prévalence et d'exposition au risque, ça soit bien plus élément, et en termes de rapport au milieu, c'est quand même très fort. Et puis, autre différence par rapport à la révolution verte, c'est contesté, et ceux parmi vous qui ont connu le développement de la révolution verte le savent, la révolution verte a été contestée, mais très peu de manière organisée, à une échelle aussi importante qu'est aujourd'hui contestée la révolution transgénique, et ça quand même c'est un élément de changement profond par rapport aux années qui fait qu'il n'y a pas révolution dans le sens où il n'y a pas adhésion au modèle, et puis c'est un système incomplet dans le sens où ça ne concerne que les grandes cultures et que certaines grandes cultures aujourd'hui. L'élevage est concerné indirectement et puis la production maraîchère est assez peu concernée. Donc on pourrait dire en gros, il y a révolution, ça dépend qu'on met le curseur sur la révolution. En tout cas, il y a domination, c'est clair, c'est ce qui domine. Il y a hégémonie, c'est clair, c'est-à-dire que ce système a complètement délégitimé les autres en Amérique latine, sauf à la rigueur au Brésil, on va y revenir, mais il n'y a pas substitution totale et l'histoire n'est pas encore écrite. Alors, j'ai pris du temps pour vous parler de ça et je veux toujours parler du temps pour parler des OGM. Du coup, je voulais vous parler des parcs nationaux en Afrique centrale. J'ai pas le temps. Et d'autant que pour ce que j'en ai à dire, en gros, c'est assez simple, vous pouvez le comprendre très vite. Dans les parcs nationaux, on arrive à faire des parcs nationaux qui sont l'exact opposé en termes de conservation que ce qu'est la production. C'est-à-dire, pour la production, on évacue la main-d'œuvre. Comme je vous ai dit, on évacue l'ancienne population rurale, les agriculteurs, etc. Et on a des systèmes à haut rendement. Là où il fallait 100 heures de travail il y a 100 ans pour produire un hectare, il faut 20 minutes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez les taux que c'est, mais 20 minutes tout compris. Hein. Récolte, semis, traitement, etc. Bon, ben, on évacue la main-d'œuvre pour faire de la production intensive. Eh bien, pour faire de la conservation intensive, croyez-moi sur parole, on se passe très bien des agriculteurs aussi. C'est bien mieux s'il n'y a pas de population rurale pour faire de la protection. Les singes sont plus contents quand il n'y a pas d'hommes pour aller les embêter que quand il y a des hommes. Du coup, dans les parcs nationaux, on a en fait le miroir inversé des systèmes de production du départ. Et maintenant, je voudrais passer le quart d'heure qui me reste à vous parler donc des systèmes. Vous voyez, pour vous rappeler qu'il est en bas le système de land sharing type agroécologie. C'est-à-dire agroécologie, ce sont des modes de production pensés à une échelle locale, avec des paysans, tout à l'heure j'ai entendu parler de circuit court, c'est la même rhétorique que l'on retrouve, avec des paysans qui vont utiliser les processus écosystémiques au mieux et adaptés au territoire, au milieu dans lequel ils sont, pour faire de la production agricole. Alors il se trouve donc que j'ai eu la chance de suivre depuis 1997 le développement de l'agroécologie en Amazonie, qui s'est développé de manière particulièrement importante, parce que c'était pensé comme un système de production là pour lutter contre la déforestation. On est sur un système de progression de l'est vers l'ouest, du sud vers le nord. C'est le système marche vers l'ouest, expansion, comme les États-Unis au 19e, hein, expansion de la civilisation occidentale sur les terres exploitées par les populations indigènes qui sont dans les forêts. Voilà, donc c'est l'expansion d'une civilisation, la nôtre, sur ces terres, et d'un mode de production, le nôtre, sur ces terres. Vous voyez donc qu'on essaye de lutter contre ça en termes écologiques et en termes de population qui vit là, parce que les populations qui vivent là, et les Brésiliens sont des acteurs importants de la défense de leur propre milieu, et ils ont fait, grâce à une collègue géographe, un zonage de l'Amazonie en trois zones qui correspondent par rapport à la carte de tout à l'heure à ici. La zone déboisée, que l'on peut appeler comme on veut, arc du déboisement, arc de la déforestation, arc du feu ou arc du peuplement avancé, selon le nom qu'on y donne. Peuplement avancé, on est plutôt favorable. Arc du feu, c'est plutôt Greenpeace qui va donner ce nom-là. Mais où c'est cette zone qui est déboisée. Ici, la zone où il n'y a pas d'enjeu, qui est la zone classée en 1. Et ici, la zone à très forts enjeux, vous voyez, la zone qui est ici. En gros, la dynamique consiste à dire, si on ne fait rien aujourd'hui ici, eh bien, le noir aura atteint tout ici, et dans 50 ans, on sera en train de travailler sur la préservation de ça. Donc, l'enjeu est la protection de cette zone, et pour protéger cette zone, c'est pour ça que j'ai pris le soin de vous dire tout ça, pour protéger cette zone, l'État brésilien a pensé un système de zonage de l'espace, hein, un géographe qui a pensé ça, et un des outils privilégiés de l'État pour agir, c'est le zonage de l'espace. Ils zonent l'espace en trois types de zones. En blanc, les zones déboisées où on a le droit de tout faire, enfin, où on a le droit de faire de l'agriculture type transgénique si ça s'y prête. En noir, les zones où c'est strictement interdit, les parcs nationaux, donc style Gabon. Alors avec au Brésil, quand même, la différence par rapport à l'Afrique centrale, c'est une bien meilleure prise en compte des populations locales qui ne sont pas évacuées comme elles peuvent être en Afrique centrale, mais qui sont quand même fortement réduites dans leur capacité à agir, et en gris, des systèmes de land sharing, vraiment, c'est-à-dire des systèmes où on essaye d'associer des dynamiques sociales avec des dynamiques économiques et avec des dynamiques écologiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que regardez où sont situés les gris, ils sont situés soit ici, dans cette zone que vous reconnaissez comme étant la zone ici, et que vous reconnaissez comme étant la zone ici, c'est-à-dire la zone déjà perdue, soit ici, qui est la zone où il n'y a pas d'enjeu à court terme. Mais la zone où il y a des enjeux à court terme, à de rares exceptions près, c'est une zone qui est dichotomique noir-blanc, conservation-production, parce que, pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne sait pas faire. Et ce dont on s'est rendu compte, nous, en essayant de développer des systèmes agroécologiques, c'est que ces techniques, qui étaient celles d'en bas à droite, on ne les maîtrise pas. Et si on dit cette zone, on l'autorise à la colonisation, pour y mettre en place des systèmes agroécologiques préservateurs des milieux par des paysans, etc., etc., ce qu'on risque, c'est de faire entrer des agriculteurs qui vont déboiser, qui ne vont pas y arriver parce que notre système n'est pas efficace, et derrière, ils seront remplacés par des grands qui iront implanter le système machin bidouche, enfin, le système techno-garden, agriculture intensive, etc. etc. Ce système, qui est pensé donc pour cette Amazonie intermédiaire, est un système qui s'affiche d'emblée comme un système révolutionnaire. C'est-à-dire qui dit on veut faire une agriculture vraiment différente pour changer les pratiques, pour mettre des pratiques agroécologiques respectueuses du fonctionnement des écosystèmes, qui impliquent des transformations sociales. Tout cela a été porté par le Parti des travailleurs du président Lula. Et au moment où Lula a gagné les élections, la capacité d'action de l'ONG dans laquelle j'étais impliqué a considérablement évolué. On a eu tous les syndicats avec nous et l'agroécologie qu'on voulait implanter était devenue un projet de territoire, vraiment. Et elle impliquait une transformation paradigmatique des modes de concevoir l'agriculture. On a y compris obtenu la possibilité de créer des facs d'agronomie différentes des facs traditionnelles portées sur l'agriculture intensive, avec des formations différentes des ingénieurs agronomes, des formations différentes des techniciens, etc., etc. On avait réussi quelque chose qui ressemble à de la révolution de type land-sharing. Et si je parle au passé, c'est que sur les terrains, on a eu beaucoup plus de mal qu'on le pensait. Et c'est de ça dont je voudrais parler à présent pour vous initier un peu à la complexité des situations. Pour ça, je vais comparer quatre territoires qui sont situés dans cette zone ici, qui, vous voyez, par rapport au quart de tout à l'heure, a l'avantage d'être, vous voyez, par rapport à l'arc, là, d'être juste à la jonction, dans des zones à très forte tension. Et on a travaillé dans quatre zones que je vais vous comparer. Dans ces quatre zones, il y avait une zone, comme toujours, on est des scientifiques, business as usual. C'est-à-dire une zone dans laquelle on ne fait rien, on n'agit pas pour voir comment ça se passe quand il n'y a rien qui se passe. Donc on a pris une zone lambda. Ensuite, on a pris une zone où il y a un projet du mouvement des travailleurs du MST, du mouvement des sans-terre, un projet de développement d'une agriculture moderne par le mouvement des sans-terre. Vous savez que le mouvement des sans-terre n'a pas rompu fondamentalement avec les modes de production productivistes, c'est juste au niveau du partage de la terre qu'il n'est pas d'accord, mais c'était un mode de production assez classique, type deuxième révolution agricole, mais à la française, c'est-à-dire avec plus de place pour les petits. Un mode de production type agroécologie, enfin, et deux modes de production type agroécologie, organisés les deux un peu différemment. Je ne vais pas rentrer dans les nuances. On a étudié l'évolution sur le temps long de ces quatre systèmes, et ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'ils ont des évolutions très différenciées. Ici, vous avez les usages du sol. En noir, c'est en forêt, et prenez en blanc et dans les gris. Plus vous avez de gris, plus c'est déboisé, et plus le gris est clair, et plus le taux de déboisement est important. Vous voyez que les quatre systèmes sont très différents entre celui-ci qui est extrêmement préservé encore aujourd'hui, et celui-ci qui est extrêmement dégradé, et ces deux-là qui sont en situation intermédiaire. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'on ne retrouve pas du tout notre typologie des modes de production. On aurait pu s'attendre, en fonction des trois grands modes de production que je vous ai présentés, que les deux modes agroécologiques soient les plus préservés, et le mode business as usual soit le plus dégradé, et le mode modernisation, ben on était curieux de voir ce que ça donnait, une modernisation écologique implantée par le MST. Et bien en fait, on se rend compte que le plus dégradé est un mode de production agroécologique. Le deuxième plus dégradé est le mode de production révolution agricole, mouvement des sans-terres. Et dans les deux plus préservés, l'un des plus préservés est le mode agroécologique, l'autre mode agroécologique, et l'autre est un mode beaucoup plus business as usual, celui où on ne fait rien. Et la différence entre les deux modes alternatifs, c'est que l'un est extrêmement coercitif ici, et l'autre était purement incitatif. C'est-à-dire, dans celui-là, on donne des règles et on s'assure du respect des règles, très fortement, avec y compris recours à la police et à l'amende. Et dans l'autre mode, on était purement incitatif, on va vous mettre en place des systèmes qui, économiquement, sont intéressants pour vous. Le problème du mode coercitif, celui qui a le mieux marché, c'est qu'il s'est quand même traduit par des conflits extrêmement violents, y compris l'assassinat de la porteuse du projet, qui était une religieuse de 72 ans, 73 ans, que j'ai très bien connue et qui a été assassinée là-bas, et qui implique aujourd'hui, pour faire respecter la règle, une présence policière importante. Voilà. Et donc, si en fait il fonctionne, c'est qu'il y a un système de coercition extrêmement important qui y est appliqué. Après, si on regarde en termes de dynamique économique, ici je représente les revenus par hectare, les revenus des exploitations agricoles en dehors de la surface, puisque je regarde juste ce que ça rapporte aux producteurs. Les revenus rapportés par les producteurs, selon différents types de systèmes agraires, entre les systèmes les plus agroécologiques, si on veut, et des systèmes plus intensifs. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que, en gros, détruire de la nature, ça rapporte de l'argent. Ça fait aucun doute. Et ça rapporte infiniment plus d'argent. On n'est pas sur une échelle, on est sur une échelle logarithmique ici, on n'est pas sur une échelle linéaire. Ça rapporte, si on était logarithmique, on serait... Ça rapporte infiniment plus d'argent que ces systèmes-là. Et si on regarde, en gros, ces courbes, je l'ai présenté hier à ma compagne, et elle me dit « Ah, c'est quoi tes toiles d'araignée ?» Ben, je lui dis « C'est simple, plus c'est vert, plus c'est préservé. » Et moins c'est vert, plus c'est préservé, mais en même temps, ici, vous avez le taux de revenu. Donc, en fait, les systèmes qui rapportent plus d'argent sont les systèmes les plus dégradés, et quel que soit, finalement, le type de pratique qu'on essaye de développer dans ces zones. Une autre manière de représenter ça, c'est ces courbes qui représentent ici... ici donc le taux de déboisement et ici l'efficacité économique, ici le bien-être social, puisque on ne mesure pas que l'efficacité économique, on essaie de regarder autre chose que l'efficacité économique, on prend des indicateurs sociaux de genre, de mode de vie, et puis ici les indicateurs de biodiversité et de services écosystémiques, de compromis services écosystémiques, c'est-à-dire d'états généraux des milieux. Ben en gros, plus on est riche et plus on est bien socialement, et plus les milieux sont dégradés, avec des effets de seuil extrêmement importants. Autre manière de représenter ça, toutes les analyses, ce que je dis, est repris dans d'autres publications de collègues qui ont travaillé sur tous ces projets de développement durable qui se sont développés dans ces zones depuis les années 90. Et en fait, c'est ces ouvrages qui étudient ces choses-là, qui en plus portent les mêmes noms, tous, en fait, c'est des litanies d'échecs quand on essaie d'étudier comment ces projets agroécologiques ont fonctionné et fonctionnent. C'est une litanie d'échecs. Alors, qu'est-ce qui explique les échecs? Je vais vite, mais en gros, vous avez vu notre décès, notre très forte tension sociale, très forte, hein, je veux dire, il y a une très faible adhésion de la base, c'est-à-dire que c'est la panique à bord, les paysans n'adhèrent pas à nos systèmes agroécologiques, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent, les paysans, c'est gagner de l'argent. Et c'est pas une découverte. Mais en même temps, on a cru qu'ils fonctionnaient différemment. Et effectivement, on en trouve qui fonctionnent différemment. À l'échelle de l'exploitation agricole, on y arrive. Mais à l'échelle du territoire, on n'y arrive pas parce que... pourquoi ? Bon, faible adhésion sociale, rentabilité économique plus que douteuse. C'est-à-dire que c'est pareil. À l'échelle de l'exploitation agricole, on y arrive. Mais... on n'y arrive pas dans les à plus grande échelle, en particulier parce que ces systèmes paysans type agroécologique sont fondés, vous savez, sur l'association agriculture-élevage, et on a oublié des choses toutes bêtes, mais l'enlever les mauvaises herbes n'est pas fait par un tracteur, c'est souvent fait par les femmes, et les femmes aujourd'hui, elles acceptent moins qu'avant d'enlever les mauvaises herbes, en fait. Émancipation féminine, émancipation des enfants aussi. Les enfants, ils aiment bien aller à l'école et ils n'aiment pas garder les vaches à l'heure ou plutôt d'aller à l'école. Et les vieux, c'est pareil. Maintenant qu'on leur donne une retraite, et les vieux, ils ne veulent plus faire tous les petits travaux qui étaient en fait extrêmement importants dans ces systèmes. Et il y a une base sociale à la modernisation de l'agriculture que je pense ici, sans doute vous connaissez, mais qu'on a un peu tendance à oublier quand on parle des systèmes agroécologiques et qui rend la rentabilité économique très douteuse de ces systèmes. Et puis, on n'arrive pas à remplacer le paradigme modernisateur chez les politiques, c'est-à-dire que Lula, et plus encore la remplaçante de Lula, Dilma Rousseff, mais aussi Evo Morales en Bolivie, mais aussi évidemment les chavistes, sont des systèmes extrêmement qui pensent la modernité et la modernisation, et la seule différence qu'ils ont avec les systèmes productivistes, c'est sur la répartition des fruits de la richesse, Et cette différence est très importante, mais en termes de technique agricole, on n'est pas du tout dans les mêmes... Enfin, il y a quand même des accords assez élevés. Voilà, donc je pose la question, est-ce qu'on assiste à une révolution de papier? Quelle conclusion? Ben, une double impasse entre, d'une part, des innovations inscrites en continuité de la révolution conservatrice, mais avec de grosses difficultés sanitaires et environnementales, c'est-à-dire que la vraie révolution, celle que là on observe, et on peut se demander oui, est-ce qu'il y a révolution ou pas, très bien, c'est un problème de débat, mais sur le fait que le phénomène soit majeur, important et rentable économiquement, jusqu'à aujourd'hui au moins, il n'y a pas de doute. Mais évidemment, elle pose des problèmes qui ne sont pas des problèmes légers, qui peuvent même être rédhibitoires. Je ne peux pas assez insister là-dessus, je peux le faire s'il y a des questions. Voilà, et puis d'un autre côté, une vraie révolution, mais alors qui, elle, au niveau de la diffusion, en dehors de marchés de niche et d'agriculteurs de niche, c'est-à-dire de quelques segments de la population agricole, moi je ne l'ai pas. Donc quelques idées clés, hein, il est beaucoup plus simple de changer quand on reste dans les chemins de dépendance, c'est-à-dire, puisque je vous ai dit que la révolution transgénique, elle n'était pas révolutionnaire par rapport à la révolution verte, et bien elle a beaucoup plus de chances de se développer, parce qu'il est beaucoup plus facile de ne rien changer que de tout changer. Et la volonté de tout changer, ben, elle est compliquée. D'autant qu'il est très problématique de faire, comme on a essayé de le faire en Amazonie, de changer les acteurs sans changer les règles du jeu. C'est-à-dire que vous laissez les acteurs dans un système d'agriculture globalisé sans changer les règles d'organisation du commerce, etc. Et le Brésil n'a pas du tout envie de changer les règles d'organisation du commerce en matière agricole, puisqu'une grande partie de ses capitaux vient de l'agriculture. Ben, en faisant ça, il sacrifie objectivement, même s'il n'avoue pas, sa population agricole type paysanne, à qui il ne propose pas des prix différents pour ses produits. Du coup, ils ne dépendent que de marchés de niche, et les marchés de niche pour le cacao bio, ben, il y en a, mais c'est quand même assez vite saturé. Donc, tant qu'on ne change pas le système global, ben, changer les acteurs, moi j'en viens à me dire que c'est absurde. Et puis, le changement est profond, il doit être systémique, c'est-à-dire il doit impliquer des changements techniques, sociaux, politiques et économiques profonds, et en particulier, socialement, il n'y a pas d'adhésion, on peut tourner le problème dans tous les sens. Nos paysans, ils aiment les tracteurs, et à part le bugle qui n'a pas voulu changer et qui a tout fait pour ne pas changer mais qui s'est marginalisé, à part le bugle, en général les vainqueurs, eux, ils ont accepté de changer. Mais évidemment, quoi qu'il arrive, il y aura des gagnants et des perdants. Ça ne sera pas les mêmes selon chacun des scénarios, mais voilà, ça se passe pas très bien. Voilà, j'ai terminé, je suis désolé, j'ai un tout petit peu débordé, mais j'ai fait mon...